Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue du grain à moudre d'été ce soir. Le discours écolo est-il le nouveau politiquement correct ? Rarement une prise de parole devant des députés n'avait entraîné de telles réactions, indignation, colère et finalement boycott. L'allocution de Greta Thunberg, avant même qu'elle ne soit prononcée à l'Assemblée, avant-hier, mardi, a été critiquée, attaquée, déconsidérée. Car c'est elle, cette Suédoise de 16 ans, qui était personnellement visée. Michel Onfray l'a par exemple qualifiée de cyborg hier. Une adolescente devenue à la fois le symbole et la porte-parole d'un discours écologiste. Discours alarmant, alarmiste pour certains sur le réchauffement climatique et sur l'état de la planète. Un discours qui sonne aussi comme une leçon de morale dispensée par des enfants à des adultes avant la menace de sanctions qui serait l'effondrement du monde. Ce discours, elle n'est pas la seule à le défendre et il occupe de plus en plus de place dans les médias et dans les débats politiques, une expansion qui suscite des crispations et des critiques, des attaques de plus en plus vives et de plus en plus nombreuses. D'où cette question, le discours écolo est-il le nouveau politiquement correct ? Pour en parler, trois invités. Fabrice Flippot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe des sciences et des techniques, maître de conférences à l'Institut Mines Télécom, auteur, co-auteur, entre autres, de La décroissance, 10 questions pour comprendre et en débattre, un livre publié par les éditions La Découverte. Marc Fontcave, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques. Avec nous également, dans quelques instants, car elle a un peu de retard, Lucille Schmitt, cofondatrice de la Fabrice Écologique, fondation qui dit promouvoir l'écologie et le développement durable. Lucille Schmitt, également membre du parti Génération Écologie, candidate aux dernières élections européennes, c'était sur la liste de Dominique Bourg, Urgence Écologie.
L'urgence écologique et climatique, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Mais tout cela n'a que commencé et cela va empirer. Et depuis que j'ai commencé à vous parler d'ailleurs, le monde vient d'émettre près de 800 000 tonnes de CO2.
On ne va pas, avec des propos enfantins, sortir de la crise énergétique. Pour diminuer le CO2, il faut plusieurs décennies. Il faut s'y mettre tout de suite et avec des éléments scientifiques et pas une logique d'agit-propre, moitié gauchiste, moitié apocalyptique.
Si on pense à la vie en général, nous sommes en plein cœur de l'effondrement. La sixième extinction massive a lieu, nous avons perdu 60% des animaux sauvages en 40 ans, c'est désastreux. Et là, nous ne sommes pas dans la projection, nous sommes dans le bilan, c'est en train de se faire, donc il n'est plus permis aujourd'hui d'en douter.
Et les gens n'en peuvent plus aujourd'hui en permanence d'être accablés par des prédictions de fin du monde, par ce qu'on appelle la collapsologie. C'est l'idée de nous dire que, de toute façon, on est coupable. Cette litanie larmoyante, punitive, accusatrice, elle est juste démobilisatrice.
Mais pourquoi, alors, pourquoi ?
Voilà en quelques secondes résumé l'affrontement autour d'un discours écologiste, celui porté par l'adolescente suédoise Greta Thunberg et l'astrophysicien français Aurélien Barraud que vous avez entendu. Discours critiqué, combattu par deux voix qu'on a entendues aussi, celle du médecin Laurent Alexandre et de la géographe Sylvie Brunel. Voilà donc pour illustrer notre sujet. Ce soir, nous allons essayer ensemble, ce qui me donne l'occasion de saluer Lucille Schmitt qui vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Nous allons donc essayer de comprendre ensemble pourquoi ce discours écolo est autant attaqué, comprendre aussi quels sont les enjeux politiques et sociaux autour de ce sujet. Et avant cela, et pour commencer, eh bien je voudrais que nous discutions de ce discours, que nous tentions de définir ce discours écolo, un discours parmi d'autres, peut-être dominant, on va le voir. Quelles sont les caractéristiques, selon vous, Fabrice Flippot, de ce discours, de ce qu'on a entendu, notamment dans la voix de Greta Thunberg et d'Aurélien Barraud ?
Bah, moi, ce que je vois sur la longue durée, c'est que le discours alarmiste, il existe depuis 50 ans à peu près, du côté écolo, donc il n'est pas complètement nouveau.
Est-ce qu'il a été déjà aussi puissant et non, aussi fort dans le débat?
Après, si on regarde les archives, parce que 50 ans, comme j'ai 47 ans, j'ai pas tout vécu. Mais si on regarde les archives et ce que disent les historiens, en gros, il y a trois moments où les écolos sont bien fait entendre, c'est le début des années 70, les années 90 et depuis quelques années, on va dire. Hein. Donc, avec chaque fois un discours très alarmiste de prise en compte de l'avenir. sur la base de tendances de contemporaines. Après, là, c'est vrai que ce qui est assez spectaculaire, c'est quand on regarde les ventes du livre de Pablo Servigne, je crois qu'ils sont à plus de 60 000 exemplaires, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de l'effondrement. Après, bon, j'ai un collègue qui fait sa thèse sur justement les collapsologues, et semble-t-il que c'est pas si évident que ça soit une population complètement différente de l'écolo disons classique. Après, il y a toujours eu deux discours dans l'écologie politique, hein. Donc il y a eu ce discours-là, assez catastrophiste, alarmiste, et qui effectivement a correspondu, correspond en grande partie à l'aile gauche, quoi, de l'écologisme, mais pas complètement. Et puis un autre discours qui est plus sur l'écologie positive, c'est-à-dire il faut entraîner les entreprises, il faut être dans les produits verts, il faut l'économie sociale et solidaire, il faut et ça se voit bien dans Europe Écologie Les Verts aujourd'hui. Europe Écologie Les Verts regroupe en fait ces deux tendances qui existent depuis les années 70.
Est-ce que entre ces deux discours dont on perçoit dans ce que vous dites les différences, est-ce que le diagnostic est le même? C'est-à-dire, est-ce qu'on va à la catastrophe?
Oui, je pense assez. Les diagnostics sont effectivement assez proches. les études les études assez poussées qui ont été menées sur qu'est-ce qui empêche les gens d'agir en fonction du changement climatique, il y a quand même sept grandes catégories de raisons, quatre catégories dans chaque catégorie de raisons. Il y a beaucoup de choses en fait qui jouent, donc je pense que les publics sont diffractés, donc ce qui agace les uns plaît beaucoup aux autres.
Marc Fontcave, sur ce discours écologiste dont qu'on évoque depuis le début de l'émission.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Fabrice, à savoir que effectivement c'est pas nouveau. Ce qui me désole assez souvent, c'est le fait qu'on n'entende que ça, non pas en réagissant comme j'entends réagir certains. Effectivement, l'intervention de Greta, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle ne fait que répéter des choses qui sont dites par ailleurs. Bon, le fait que ça soit une jeune fille est peut-être intéressant, mais pour le coup, sur la question de l'écologie, de la révolution écologique, de la révolution énergétique, elle n'apporte strictement rien. Et d'ailleurs, c'est ça le problème au fond dans ce débat, c'est que cette parole catastrophiste, elle est trop limitée. Bon, moi, évidemment, je viens ici avec un chapeau de scientifique, de quelqu'un qui passe sa vie à essayer de résoudre des problèmes scientifiques et technologiques, notamment dans le contexte de la valorisation du dioxyde de carbone, sur la question du stockage des énergies renouvelables, et je suis confronté à des problèmes colossaux.
Extrêmement complexes.
Oui, et j'aimerais bien entendre parfois, alors moi ou un autre, mais entendre aussi cette parole-là qui, à côté de dire il y a des urgences et effectivement il y a des problèmes à régler, eh bien de sortir de « il n'y a qu'à, faut que, toutes les solutions sont là, c'est facile, et si ça ne se fait pas, c'est parce que il y a un complot organisé par des lobbies, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais les gouvernants, les entreprises, etc. » Donc,
c'est un discours d'alerte aussi que porte Thunberg à l'adresse des dirigeants.
Enfin, elle n'est pas nouvelle dans l'alerte. Hein. Ça fait très longtemps qu'en effet, on alerte sur le sujet. Mais c'est pas parce que, disons qu'il y a besoin d'alerte, qu'il n'y a pas besoin aussi de gens qui interviennent sur les plateaux de télévision et de radio pour expliquer aussi où est-ce qu'on en est sur les problèmes scientifiques. Non pas pour parler de science, mais au fond pour dire pourquoi on n'y arrive pas. De mon point de vue, c'est pas uniquement parce qu'il y a un complot. C'est parce qu'il y a des difficultés et donc mettons-les sur la table, discutons. Je ne vois nulle part où, à côté de ce débat-là, enfin c'est pas un débat d'ailleurs, de cette parole-là, on aborde les choses scientifiques, technologiques, les difficultés, les limites, et effectivement plutôt que de parler d'un an, peut-être qu'il faut parler de 10 ans, 20 ans, parce que c'est comme ça.
Oui, puis ça peut être aussi intéressant quand même de parler de science dans les médias et sur les plateaux de télévision ou dans les studios de radio. Lucille Schmid.
Oui, moi, ce qui me frappe par rapport à ces deux discours parallèles, c'est effectivement qu'ils ont un côté rituel. Il faut quand même rappeler que lorsque Rachel Carson écrit Silent Spring, c'est en 1962, donc ça fait fort longtemps qu'on alerte sur la question de la disparition de la biodiversité. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a raté certains moments. alors même que l'alerte existait, il faut s'interroger sur les résistances du système. En quoi est-ce que le discours sur le Yaka Faucon, on aura le progrès technique pour nous aider par rapport à la situation qui se dégrade extrêmement fortement, en quoi est-ce que ce discours est aussi une manière quelque part de nous endormir, ou en tout cas un discours qui encourage l'inaction. Moi je pense que la difficulté par rapport à ces deux discours parallèles entre le catastrophisme et le discours du Yaka Faucon et il faut laisser les gens évoluer positivement et à leur rythme, c'est donc ils ne structurent pas un lien entre le diagnostic qui aujourd'hui est de plus en plus clair pour tout le monde parce qu'il y a une visibilité, même quand on n'est pas scientifique, ce qui est mon cas, il y a une visibilité aujourd'hui du changement climatique, de la disparition de la biodiversité et il y a un intérêt qui s'éveille d'ailleurs pour les sciences qui est extrêmement fort. Donc le diagnostic apparaît de plus en plus clair à l'opinion publique. En revanche, il y a évidemment la tentation du déni, en tout cas l'inquiétude devant l'Himalaya à transformer le système. Et ces deux discours peuvent d'une certaine manière encourager chacun à leur façon la difficulté à articuler un discours du diagnostic et un discours de l'action qui débouche sur cette transformation.
Fabrice Flippo.
Oui, deux choses. La première, c'est que moi je suis partisan de l'idée que toutes les solutions existent et que le problème c'est leur diffusion. Et après, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut avoir le beurre ou l'argent du et l'argent du beurre. C'est ça la question. Je vais prendre un petit exemple, très simple. J'espère qu'ils m'écoutent pas, mais je vais être prochainement invité à un think tank de Renault sur la mobilité durable. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé leur site et évidemment, ils arrivent à la conclusion que la voie la plus sage, c'est d'aller vers la voiture électrique. Bon, ce think tank reflète l'état de l'opinion de l'industrie automobile, qui est le premier annonceur de France, qui a des représentants partout et qui donc est très 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 écouté, contrairement à tout un tas d'autres, notamment les écolos. Bien qu'une partie des écolos croit à la voiture électrique. Mais voilà, donc il y a un discours qui a une puissance institutionnelle forte, qui débouche sur de la recherche et développement, sur de l'argent affecté aux batteries monumentales. Regardez en comparaison l'argent qui est alloué pour l'aménagement du territoire et se passer de la voiture. Il est nettement plus faible. Pourtant, c'est d'abord se passer de la voiture qu'il faut faire si on regarde les timings. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut regarder la vitesse avec laquelle, disons, ce qu'on va gagner sur, si jamais ça marche, la voiture électrique dans 20 à 30 ans, où est-ce qu'on en sera? On voit qu'on n'est pas du tout là où il faudrait être. Et pour tout un tas de raisons, et c'est même pas sûr que ça marche, c'est même pas sûr que les gens puissent acheter une bagnole électrique parce que ça va coûter trop cher, etc., etc. Bon, donc, peut-être que c'est pas une trajectoire très prudente. Par contre, le logo lobby, il faut bien l'appeler par son nom, lobby automobile, pense que c'est très sage. Pourquoi c'est très sage? Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en termes de transformation sociale, donc là on n'est pas sur la partie scientifique, en termes de transformation sociale, ce qui change, la technique joue un rôle, mais aussi les structures symboliques. C'est-à-dire la structuration de la société en termes de règles, en termes de normes, et moi je pense qu'il faut un changement profond de ces règles et de ces normes du type révolutionnaire. Je pense qu'il faut dire les choses par leur nom. Un changement de régime fort, pas que de le gouvernement. C'est un changement de régime normatif fort, et ça passe par des discours d'alerte, des discours qui vont provoquer en fait des ruptures dans la linéarité d'un discours historique dans lequel se coule très bien la voiture électrique. C'est comme ça que ça se passe historiquement. Les historiens montrent que l'histoire n'est pas linéaire et que les ruptures vont être provoquées par des menaces comme ça qui vont faire sortir les gens d'un comportement trop habituel.
Pourquoi ces ruptures ne sont-elles pas arrivées plus tôt, puisque vous nous rappeliez tout à l'heure que ça fait 50 ans que ce discours existe, Marc Fontgab?
Justement, parce que voilà, on est à quelques minutes de ce débat et déjà on a une illustration de la difficulté de discuter de ces sujets-là. Fabrice dit les solutions existent. Moi je dis non, elles n'existent pas. Il faut encore y travailler. C'est une révolution scientifique et technologique qui prendra encore un peu de temps. Alors évidemment, si on en reste là, bon, chacun part avec moi. Je sais que c'est faisable et l'autre qui dit
dans le détail, parce
voilà.
Que...
Donc voilà, c'est niveau de généralité, voilà, c'est bien sûr. Mais rentrer dans le détail, il y a X sujets, c'est très compliqué. Il faut des informations scientifiques, technologiques, en effet économiques, sociales, etc. Bon, pour le moment, à l'échelle d'une émission comme celle-là, à la radio ou à la télé...
Oui, on va pas avoir le temps de...
Effectivement. Mais néanmoins, toutes les solutions nécessaires. Où ça se passe, cette discussion-là? Où est-ce qu'il y a cette information mutuelle? Bon, c'est très difficile, elle n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Donc moi, ma réponse à votre question, pourquoi on ne l'a pas fait, c'est pas à cause des lobbies, et à cause de, c'est à cause d'un complot qui serait mené par tout un tas de gens contre le climat, parce que je pense qu'effectivement, tout le monde est alerté, tout le monde sait qu'il y a un problème, et tout le monde est convaincu qu'il faut défendre l'environnement et la planète. Il y a des intérêts économiques, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Mais pourquoi ? Parce que... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait eu la moindre révolution scientifique et technologique qui était décrétée et à laquelle on est donné une date limite pour se réaliser. Elle se fait à la vitesse des recherches scientifiques, technologiques, de la recherche fondamentale et recherche appliquée. Et pour le moment, moi, c'est ma position et je suis confronté sur un certain nombre de sujets que je connais bien. Je ne connais pas tous les sujets. Eh bien, sur les sujets sur lesquels je travaille, par exemple le stockage des énergies renouvelables, ma réponse c'est non, nous n'avons pas la solution à cette question à l'échelle de la planète. Aller régler le problème d'une maison, d'un petit village, etc., on peut essayer de le faire, mais la question c'est de régler le problème de l'énergie de bientôt 10 milliards d'habitants. C'est des choses absolument colossales. Si on avait le temps, je donnerais quelques exemples qui montreraient la masse d'énergie que ça signifie et la révolution à mettre en œuvre. Donc voilà. Donc tout le monde est impliqué dans cette révolution, en tout cas au niveau scientifique, ceux qui sont dans le domaine. Mais voilà, moi, ma position est différente de celle de Fabrice.
Avant de donner la parole à Lucille Schmitt, je reviens sur ce que vous dites, Marc Foncave. Vous dites que les solutions techniques n'existent pas, qu'il va falloir
encore... Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Elles sont en cours de résolution. Mais dire que dans un an, ça sera fait, non.
Mais
quitte moi, dans 20, 30 ans.
Mais voilà, quitte à ce que ce soit trop tard, comme le disent des personnes qui portent ce discours, qui agitent l'imminence de... En tout cas, oui, l'imminence de la catastrophe, qui disent, écoutez, si rien n'est fait dans pour les plus optimistes, si j'ose dire, ou les moins pessimistes dans 10 ans, et pour les plus pessimistes dans d'ici un an et demi ou 2 ans, c'est fini, il n'y a plus d'espoir.
C'est ça qui me désole, c'est quand j'entends Greta dire rien n'est fait, je pense à mes chercheurs dans mon laboratoire, des jeunes chercheurs venus du monde entier, des doctorants, des post-doctorants, qui passent leur vie, week-end compris, à essayer de résoudre ces problèmes-là. Donc dire que rien n'est fait, non, c'est faux. Il y a des tas de choses qui sont faites et ça serait bien de mettre en valeur ces choses-là plutôt. Là. Donc, par rapport au sujet qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire ce discours dominant, ça serait bien de l'équilibrer un petit peu avec des choses positives.
Les problèmes de qui ? Lucille Schmitt et ensuite Fabrice Flippo.
Moi, je pense que le problème, c'est, on le voit bien à travers ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a à la fois un discours microéconomique à avoir, c'est-à-dire par acteur, par type d'acteur, et un discours global. Et au fond, le discours politique ambiant est un discours beaucoup trop général et un discours quelque part qui repose sur le « on dit », sur une absence de culture générale des élites politiques, économiques de ce pays qui est absolument abyssale. Et la difficulté pour nous, société, citoyens engagés, la difficulté pour nous, c'est de faire une place aux sciences, qui soit une place centrale dans cette réflexion sur l'écologie, et en même temps de faire une place à la démocratie. Donc la question qui est en cause, c'est l'articulation entre science et démocratie, l'articulation entre passage d'un discours très macroéconomique ou très macro-social à un discours qui soit plus segmenté, qui effectivement tienne compte des efforts qui sont faits, et par exemple sur les entreprises. Je suis persuadée que chez Renault, il y a des gens qui ne croient pas en la voiture électrique, simplement ils n'osent pas le dire parce que le modèle dominant c'est la voiture et il faut que Renault continue à faire des profits. Donc toute la question, c'est au fond pour nous de donner au lancement de l'alerte et ensuite à la façon dont l'alerte enclenche le discours de l'action différente, une force. Il y a des lanceurs d'alerte internes, il y a des lanceurs d'alerte externes. Greta Thunberg, elle a des tas de défauts, mais elle est une lanceuse d'alerte qui a quelque part derrière elle une génération des 15-16 ans qui jusqu'à présent n'avait pas pris de positionnement politique. Donc son discours peut être un discours décevant sur le contenu. En revanche, ce qu'il manifeste, c'est l'idée d'un changement de rôle. C'est-à-dire qu'à 16 ans, on devient citoyen alors qu'avant, on attendait tranquillement que ses parents vous disent comment voter. Donc il y a quelque chose qui se passe en termes de transformation des rôles qui a été aussi porté par Aurélien Barraud, qu'on écoutait en début d'émission. Lui, il est sorti de son rôle de scientifique pour dire, moi, je vous alerte aussi comme un politique. Et quelque part, cette façon dont certains pourraient assumer des rôles qui soient des rôles complémentaires et sur l'idée que l'écologie n'est plus quelque chose qui, dans l'état actuel de la planète, où il faut rester dans son rôle, le fonctionnaire, l'entrepreneur, le chercheur, celui qui est engagé depuis 15 ans, il faut faire place à une espèce de phénomène massif de métamorphose des rôles ou en tout cas d'interaction entre les différents milieux. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui il y a des discours parallèles sur l'écologie. Il n'y a pas que ces deux discours qu'on a entendus au début de l'émission. Il y a aussi des discours très techniques, des discours moins techniques. Il y a le discours de l'écologie de la proximité versus le discours de l'écologie des ingénieurs. Il y a le discours de l'écologie des scientifiques versus le discours de la personne qui au quotidien fait ses courses et consomme différemment. Comment est-ce qu'on fait pour que ça constitue ces mille facettes de l'écologie constituent un discours compréhensible par tous qui permettent d'avoir un projet partagé? Moi, c'est ça qui me semble important.
Oui, mais
si... tous les trois.
Allez-y, Marc Fontcave, et ensuite Fabrice.
Non, juste deux choses. Effectivement, faire de la politique et alerter, c'est une chose, mais faire de la politique en faisant croire aux gens, et c'est ça mon problème à moi, faisant croire aux gens que c'est possible instantanément et que si on ne résout pas les problèmes dans l'année qui vient, ce que dit Hulot parfois, enfin, etc. Ouais. Bon, ça, c'est pas faire de la bonne politique. Alertons, mais aussi...
Construisons.
Construisons, soyons pragmatiques. Construisons. Et juste un mot sur les entreprises, puisque vous l'avez évoqué. D'abord... beaucoup de chefs d'entreprise que je rencontre dans le domaine de l'énergie sont éminemment convaincus qu'ils ont des choses à faire. Et par ailleurs, moi, chaque fois que je rencontre souvent des lycéens où je vais faire des conférences dans des lycées. Quand ils tombent à bras raccourcis sur les entreprises, je leur dis quand même que s'il y a bien un système, enfin des systèmes qui feront la révolution écologique énergétique, ce sont les entreprises. Parce que moi, ce que je découvre dans mon laboratoire, ça n'a strictement aucun sens s'il n'y a pas une entreprise qui le prend et qui ensuite le met sur le marché. Voilà. Donc, je le dis très clairement. Aujourd'hui, ma recherche la plus écolo, elle est soutenue par Total. Si je découvre des choses intéressantes, c'est Total qui va le mettre sur le marché. Alors, on peut dire Total, c'est dégueulasse, etc. Ben non, c'est aussi des choses comme ça. Voilà. Donc, il faut avoir une vision un peu plus équilibrée.
Pragmatique aussi.
Voilà. Pragmatique et équilibrée. Nuancée, moi, j'appelle à l'équilibre. Voilà.
Fabrice Philippot.
Oui, non, mais moi, je ne doute pas que les entreprises sont convaincues. Elles étaient déjà convaincues dans les années 90. Il y a eu des travaux de sociologie assez intéressants menés auprès du grand patronat là-dessus. Ils étaient déjà au courant. La question, c'est à partir de là, pourquoi ils bloquent tout le temps? Donc moi je vois bien qu'ils soient convaincus.
Je viens de dire qu'ils ne bloquaient pas puisqu'ils mettent
ça
de l'argent.
Ça dépend desquels. Oui,
quand on suit les dossiers.
Pas tous alors. On peut pas dire ils en général.
Voilà, mais comme vous le dites aussi, je le dis aussi, et ça dépend des entreprises. Certaines entreprises sont effectivement plutôt facteurs de changement. En général, ce sont de petits acteurs. Ce ne sont pas les grands acteurs. Les grands acteurs, ne serait-ce que par leur inertie, disons, ne font pas évoluer les choses. Il y a un débat en France sur les renouvelables depuis, disons, 40 ou 50 ans, que je connais quand même relativement bien pour l'avoir suivi, qui est, disons, un système centralisé contre un système décentralisé, qui oppose un acteur central, qui est facteur de blocage depuis très longtemps, à une myriade de petits acteurs qui ont construit notamment un scénario qui s'appelle le scénario Négawatt, dans lequel le problème de stockage de l'énergie renouvelable ne saute pas aux yeux, on ne peut pas le dire. Maintenant, il suppose un maximum de consommation d'énergie, voire une diminution assez forte de la consommation d'énergie, parce qu'effectivement, une consommation sans cesse croissance d'énergie dans le domaine des renouvelables, c'est effectivement pas supportable. Mais donc après, il faut être précis un peu sur ce dont on parle. Moi, je parle, j'ai bien dit tout à l'heure, je parle des acteurs principaux de l'économie, de l'automobile, qui sont les facteurs de blocage. On le constate simplement sur les directives européennes qui passent, on le constate sur les lois qui passent, parce qu'ils veulent contrôler les solutions. Hein, on l'a vu à la COP21 aussi. Ils veulent contrôler les solutions parce que c'est des marchés. Alors, d'autres acteurs proposent des solutions, des maisons en bois, les industriels ne savent pas le faire, des maisons en paille non plus. Bon, il y a plein de solutions qui sont mises en œuvre déjà par un certain nombre de petits acteurs, c'est vrai, à l'échelle locale ou même un peu supérieure, avec des scénarios qui existent notamment pour l'habitat. Il y a des calculs de fait par un petit cabinet qui montrait que la quantité de paille, par exemple, pourrait suffire à isoler assez massivement l'Île-de-France, voilà. C'est des choses qui ne passent jamais. Par contre, on entend toujours la voiture électrique matin, midi et soir. On entend, voilà, il y a un certain nombre de solutions qui sont martelées, qui sont en plus pas adaptées aux gens. Hein, CF, les gilets jaunes. Bon, les voitures électriques, ils en veulent pas. Ils ont bien compris qu'il y avait un problème. Donc, alors, voilà, je dis qu'il y a une pluralité de discours, mais avec des discours qui ont une puissance, une omniprésence assez forte. Voilà, alors, les autres n'ont plus le choix que de lancer l'alerte.
On parle beaucoup de solutions. Je voudrais qu'on revienne aussi au discours. Je vous rappelle le thème de l'émission, de ce grain à moudre d'été. Le nouveau politiquement correct est-il le discours écologique? On en parle avec vous trois, Fabrice Philippot, que nous venons d'entendre, philosophe, Marc Fontcave, professeur au Collège de France, et vous, Lucille Schmid, cofondatrice de la Fabrique écologique.
Oui, alors moi ce que je voulais dire sur la question du discours, puisqu'on y revient, c'est qu'on voit bien que, je ne sais pas si l'écologie est le nouveau politiquement correct, mais en tout cas ce qui reste politiquement correct, c'est de consommer. C'est-à-dire qu'en tout cas le discours de la publicité, le discours dominant, c'est les voitures, notamment. Je vois que Fabrice Flipeau a une obsession sur la voiture, mais après tout, dès qu'on veut regarder une vidéo, non mais je dis ça en riant, dès qu'on regarde une vidéo, on a droit à une publicité de voiture. On est quand même encore dans un discours, en tout cas dominant, qui est quelque chose de la consommation qui n'a rien à voir avec l'écologie. Donc s'il y a une écologie du politiquement correct, elle est en combat avec un politiquement correct de continuer à consommer le plus possible. Donc on peut dire qu'il y a un conflit des politiquement corrects, ça me semble assez clair. Après, ce qui me semble important par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est qu'on parle de politiquement correct parce que quelque part, il y a un discours effectivement maintenant, qu'on le soit convaincu ou pas de l'imminence de la nécessité de changer, on commence toujours son discours par un petit couplet écolo. Tout le monde est vert, certains le sont plus sincèrement que d'autres, mais ce qui me semble important, c'est de ne pas s'arrêter simplement à l'argument moral ou à la sincérité, et de regarder comment est-ce qu'on peut décliner, au fond, qu'est-ce qu'est un projet de société écologique. Ça me semble essentiel, parce que au fond, depuis des années, on avait une sorte de minorité active, une avant-garde, que rappelait Fabrice Flipeau, les écologistes politiques engagés. On avait des personnes convaincues, des individus, on avait des intellectuels, des entrepreneurs, des collectivités locales, bon, certains hauts fonctionnaires, même très rares. Mais maintenant, il s'agit de faire société écologique. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que si tout de suite, on a un discours politiquement correct et très vague, et qui ne convainc pas, au fond, qui n'explique pas comment est-ce qu'on doit changer l'ampleur du changement, mais aussi les éléments d'espoir et de vision, et qui ne donne pas à chacun son rôle. Bon, j'apprécie qu'on parle des entreprises, mais je voudrais aussi qu'on parle de l'État. Qu'on parle des acteurs publics, avec toute l'idée que pour construire ce discours, il faut à la fois une culture générale partagée sur l'écologie, quelque chose qui ne soit pas trop complexe et qui puisse être compris par tous. C'est important que Fabrice Flipeau ait rappelé que le mouvement des Gilets jaunes était à la fois animé par des personnes qui, je crois, aimaient beaucoup leur voiture et d'autres qui se disaient sincèrement écologistes. C'est-à-dire qu'il y avait là une espèce d'aspiration à une écologie plus populaire et en tout cas le refus d'une écologie dictée d'en haut. Et tout ça, c'est des miettes d'un discours qui aujourd'hui n'est pas structuré.
Mais c'est intéressant, là on est au cœur du sujet, à la fois qui porte ce discours et qui l'entend et qui le comprend. Porte ce discours en fait?
J'aurais tendance à dire que ceux qui agissent d'une certaine manière et donc qui parlent le moins, peut-être le portent le plus. Donc vous savez, les choses les plus importantes sont parfois celles dont on parle le moins. Ça, je tiens à le dire, c'est le plus intime, c'est le plus important, c'est ce qui compte qu'on fait avant d'en parler. Et c'est une des difficultés. Ceux qui en parlent le plus ne sont pas forcément ceux qui sont les plus convaincus. Ça, je crois qu'il y a un sujet sur les actes et le discours, qui est quelque chose d'important sur l'écologie. Après, il me semble que quand vous regardiez, par exemple, les contributions qui ont été mises sur le site du Grand Débat, vous savez, du gouvernement, il y avait des contributions absolument passionnantes, écrites. Alors, c'était de l'écriture, mais on peut dire que ça portait donc un discours, qui montrait qu'il y avait une aspiration individuelle à une écologie très forte, avec en même temps, j'allais dire, des points d'alerte, puisque moi j'aime bien ce mot, en tout cas je pense que l'alerte c'est une manière de faire changer le système, en disant mais il faut condamner ceux qui polluent le plus et il faut faire en sorte que les responsabilités soient plus claires. Responsabilités entre l'État, les entreprises, les acteurs publics, les acteurs privés, entre les dirigeants politiques. Ce qui se passe autour de l'affaire de Rugy, par exemple, c'est effrayant. C'est-à-dire que on ne parle plus que de la personne, mais au fond, il faudrait parler du contenu des politiques, vous savez. Et du coup, la question du discours sur l'écologie, c'est qu'on assiste à une sorte de confusion entre qui l'incarne le mieux, peut-être Nicolas Hulot, c'est ça que vous vouliez me faire dire. Mais
non,
au fond,
pas forcément.
Au fond, Nicolas Hulot, ce qu'il a fait, c'est que il est un des hommes les plus populaires de France. Il porte le discours le plus entendu. Mais quelque part, il n'a pas dessiné suffisamment, me semble-t-il, ce que pourrait être le contour de cette société. Il était l'émetteur légitime, reconnu en tout cas par les Français. Et
Sauf que les Verts n'en ont pas voulu.
Non, mais on s'en fiche des Verts.
Bah non, on s'en fiche pas parce que
Nicolas Hulot, c'est comme la reine d'Angleterre. Tout le monde l'aime tant qu'il prend pas de décision.
Oui, parce que.
Allez-y, Marfond.
Non, je veux simplement dire si effectivement ce discours-là était le discours politiquement généralement admis par tout le monde. Les Verts seraient au pouvoir depuis longtemps et ils auraient fait la révolution écologique et énergétique dont on nous parle. Bon, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur les responsabilités, chaque fois, mais qui est responsable? Tout le monde est responsable. même celui qui est dans la rue et qui prend l'avion et prend sa voiture, et etc. Bon, chaque fois de dire, c'est à nouveau, vous retombez dans cette logique qui est de dire qu'il faut pointer du doigt un certain nombre de gens précis, et nous sommes tous responsables de la situation. Si les gens, quand ils se révoltent, par exemple, en attaquant l'État devant la justice, ce que moi-même j'ai trouvé absolument ridicule.
L'affaire du siècle, hein, c'était l'affaire du siècle. Fin 2018.
Au fond, c'est à nouveau de dire, c'est toujours les autres qui sont responsables, mais tous ces gens-là, prennent la voiture, ont des climatiseurs chez eux.
Oui, mais on n'a pas tous le même accès au pouvoir, c'est ça la question.
Oui, on en a parlé juste avant. Peut-être, je ne dis pas mais nous, quand nous en parlons, il faut dire que les responsabilités sont partagées très très largement. Et ensuite, elles sont partagées d'ailleurs à l'échelle de la planète, parce que c'est aussi une chose que je dis souvent. Je veux dire, ce problème-là n'est pas qu'un problème français. Hein.
Ça, c'est sûr.
Il faudra aussi que ce discours politiquement dominant, il traverse la planète, parce que s'il n'est qu'en France dominant, il n'aura strictement... Si on alerte juste en France, ça n'a strictement
aucun intérêt. C'est le rôle aussi de Greta Thunberg, une jeune Suédoise qui porte cette parole
dans toute la planète.
Dans toute la planète.
Et ça, c'est une autre difficulté, parce que la question du climat, c'est pas une question française.
Fabrice Flippo.
Deux remarques. Hein. La première, c'est qu'on retrouve le discours, disons, centriste, c'est-à-dire c'est la faute de tout le monde, quoi, plus ou moins. Donc on a le droit de le tenir, hein, simplement c'est pas le seul. Donc je reparlais des deux courants principaux de l'écologie. Hein. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que le changement social et politique passe par l'attribution de responsabilités. Ça passe par là, une attribution de responsabilité conflictuelle, c'est le moteur du changement en fait, hein, les ONG utilisent ça à tour de bras, et bon, ça a toujours été comme ça en fin de compte, hein, les entreprises font la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est pas moi c'est l'aviation, dans le numérique c'est pas nous on est la solution, c'est l'automobile, et voilà, chaque secteur...
Est-ce qu'il est efficace le discours dont on parle depuis le début de l'émission, compte tenu de ce que vous venez de dire, Fabrice Flippo?
Est-ce qu'il est efficace? Chacun a tendance à dire que le discours de l'autre est inefficace. Hein. Le discours tous coupables, l'autre courant, il dira ça sert à rien. Ça sert pas complètement à rien, à mon avis, parce que il y a un lien entre le changement collectif et le changement individuel. Maintenant, le pouvoir est inégalement réparti. On peut objectiver très facilement que certains citoyens consomment beaucoup plus de planète que d'autres. Je pense que moi, j'ai passé beaucoup de samedis sur les ronds-points et sur les manifs à Paris gilets jaunes. Effectivement, c'est la première revendication. Qu'est-ce que vous nous embêtez avec cette taxe carbone, alors que, un, ça ne sert pas à l'écologie, et deux, ça ne nous fera pas changer, puisqu'on est dépendant de la voiture, et c'est pas parce qu'on aime la voiture, c'est parce qu'on est dépendant de la voiture, et trois, on n'est pas les facteurs principaux de problème. Il doit y avoir une politique équitable dans ce domaine, et c'est le même blocage qu'on retrouve dans les négociations climat à l'échelle internationale. Les pays riches sont ceux qui ont le plus pollué historiquement, sont ceux qui ont donné des leçons pendant un certain temps, qui continuent en données, mais qui font pas grand chose. Et le pays peut-être qui change le plus aujourd'hui, c'est peut-être la Chine. Donc
Chine qui fera la révolution énergétique.
La question de la responsabilité, elle s'objective. Il y a des critères. Après, je dis pas qu'on peut arriver à un consensus sur les responsabilités, parce qu'après c'est divergence politique. Divergence politique, c'est des questions de conviction. Mais ça s'objective. C'est pas des choses en l'air.
Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect scientifique. La science dans ce débat tient un rôle fondamentale, et elle n'occupe peut-être pas d'ailleurs la place qu'elle devrait occuper. C'est aussi par des faits scientifiques que passe ce discours. C'est ce que rappelait d'ailleurs Greta Thunberg devant les députés à l'Assemblée nationale avant-hier en citant une des pages du rapport du GIEC. Il y a un autre facteur de transmission, un autre vecteur, et vous en parlez aussi, Lucille Schmitt, c'est l'émotion. Est-ce que le discours qu'on entend, ce discours dominant, passe aussi par l'émotion pour aller toucher les citoyens?
Oui, bien sûr, parce que moi je crois que l'écologie a quelque chose à la fois de très intime, Je pense que ça relève de l'intime conviction, au fond, la question du changement, de l'importance du changement qu'elle nécessite. Et en ce sens, je rejoins l'idée qu'on est tous responsables. On doit tous être intimement convaincus, surtout. Et je pense que, comme on est, au fond, écartelé, chacun d'entre nous est ambivalent vis-à-vis de l'écologie, même lorsqu'on est très écologiste, qu'on fait partie de cette minorité active qu'évoquait Fabrice Flippo, à un moment ou à un autre, on se dit « Ah ben non, là, j'arrête un peu, j'en ai marre. » Et donc, cette question émotionnelle, cette façon dont la littérature, les arts, le cinéma, l'image, peut permettre de mettre en scène cette ambivalence et, d'une certaine manière, entraîner une accélération, une dynamique de transformation plus forte, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, avec des amis écrivains, j'ai créé un prix du roman d'écologie, par exemple, et au début, on nous disait, mais ça n'existe pas en France, le roman d'écologie, ça n'existe qu'aux États-Unis, avec le nature writing, etc. Et pas du tout, en fait, chez les jeunes romanciers notamment, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un élément générationnel important, parce que, quelque part, ressentir dans son corps, ressentir la canicule tous les 5 ans et non plus tous les 25 ans, je pense, ça fait des différences. Avoir l'angoisse de ce qui peut se passer, ça fait des différences. Et du coup, la question de la mobilisation est importante. Et en tout cas, elle se reflète dans l'inspiration culturelle, dans l'inspiration romanesque, beaucoup au cinéma, beaucoup avec l'image. Et c'est quelque chose qui existe en France sans que ça ait été vraiment décerné ou décelé, peut-être parce que, d'une certaine manière, le modèle à la française est encore un modèle qu'on nous exhibe beaucoup, alors que les Français ont déjà beaucoup changé. Juste une petite incise sur la question de la responsabilité, très rapidement. Moi, je pense qu'effectivement, il faut que chacun reconnaisse sa responsabilité individuelle, mais je pense que sur la structuration de la responsabilité collective, il y a un certain nombre de personnes qui sont plus en situation de le faire que d'autres. Ceux qui ont le pouvoir, économique d'abord, sans doute, parce qu'il y a plus d'argent là, mais aussi ceux qui ont le pouvoir politique, parce qu'ils régulent, ils décident de l'impôt et ils montrent le cap. Je pense que attaquer l'État, et je terminerai là-dessus, moi, je suis aux fonctionnaires. Je trouve qu'il y avait des maladresses dans la pétition de l'affaire du siècle, mais j'ai compris qu'il y avait là une demande aussi que l'État joue son rôle, que pour l'instant il ne joue pas sur la vision écologique.
Marc Fontcave, puis Fabrice Flippo.
Oui, je voulais dire que si ce discours-là effectivement n'est pas très efficace, c'est parce que il se et pourquoi les mouvements écologistes ne sont pas plus majoritaires dans les élections, pourquoi ils sont pas au gouvernement, etc. C'est parce que s'ils se limitent à ce discours émotionnel d'alerte au fond de catastrophisme sans jamais au fond faire des propositions concrètes, parce que moi les dernières propositions à peu près sérieuses que j'ai vues, c'est celle de Berger et Hulot, les 66 propositions. Il me semblait que là il y avait un acte un peu original, mais c'est très rare. Évidemment, Greta, elle propose rien du tout, elle ne sait pas d'ailleurs comment il faut faire. Mais donc à l'inverse, on pourrait compléter ce discours environnemental, pro-écolo, d'un peu plus de confiance dans la capacité de l'homme de résoudre des problèmes, de montrer ce qui se fait quand même, plutôt que de montrer toujours ce qui ne se fait pas, enfin, etc. Donc, et à la fin, bah, ça explique pourquoi on n'a pas envie de voter vert massivement, quoi. Parce qu'on n'a que des gens qui se plaignent. Et désolé, mais non. À la fin, c'est quand même le résultat.
Mais est-ce que ce n'est pas aux responsables politiques?
Jadot, c'est très heureux de ses 13%, mais enfin, c'est pas non, ça qui va renverser
si on reprend
la machine.
Ce que vous avez dit entre et science et émotion, c'est plutôt entre raison et émotion, parce que quand même. Disons, quand on parle de science, qu'on parle que des scientifiques, les scientifiques sont 100 000 en France, toutes sciences confondues, ils ne traitent qu'une toute petite partie, en fait, de ce que l'humanité traite au quotidien, de ce que les Français traitent au quotidien en termes de problèmes. Donc, ils ne tiennent qu'un petit...
Ça veut dire qu'il y a des scientifiques aussi dans d'autres pays et qui contribuent à ces recherches et à l'avancée de ces recherches.
Plus, hein, je vous assure qu'en proportion, en France, il y en a beaucoup par rapport à la population. Donc, si on va à l'échelle mondiale, c'est encore moins, c'est pas plus. Donc, c'est un premier élément. Ils ne tiennent qu'une petite partie des problèmes, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les écolos, depuis les années 70, avancent des tonnes de propositions. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que c'est pas sérieux? Voilà, c'est ça la question qui me semble intéressante. Qu'est-ce qui est sérieux et qu'est-ce qui est pas sérieux? Et surtout, qui est-ce qui décide de ce qui est sérieux et de ce qui est pas sérieux? Donc je vous disais tout à l'heure dans mon exemple avec Renault que ce think tank explique que ce qui est sage, donc sérieux, c'est la voiture électrique. Le reste, c'est pas sérieux. Bon, ça, c'est une configuration assez classique de controverses environnementales ou
et commerciales aussi.
Et commerciales et plus généralement, d'une controverse même sociale. Hein, c'est-à-dire que les économistes syndicalistes, c'est pas sérieux. Les écolos, c'est pas sérieux. Mais par contre, l'État, c'est sérieux. Renault, c'est sérieux. Et bon, donc la question, elle est, on retrouve cette question de qui tient le discours, qui arrive à passer pour sérieux auprès de quelle quantité de population, de telle manière à finalement continuer à garder une part du pouvoir plutôt que de changer. À un certain moment, il faudrait que le sérieux change un peu de côté. Et je pense que justement, ce qui depuis quelques années, on va dire, c'est pourquoi tout le monde est obligé de se justifier au moins un petit peu par rapport à la question de l'écologie, c'est que le sérieux a changé de côté. C'est-à-dire que tous les gens qui rigolaient en disant l'écologie, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Enfin, on connaît la litanie de toutes les objections. Ben, aujourd'hui, ils sont un peu coincés, ils sont obligés d'être un peu plus sérieux, justement, d'argumenter un tout petit peu plus, de pas se contenter de dire, ah ben, c'est pas sérieux. Ils sont obligés d'aller un peu sur les chiffres, qu'ils s'aperçoivent que, c'est compliqué. Donc, vos solutions, elles marchent pas. Donc, il faut d'autres solutions. Et là, on commence à, disons, pour moi, dans ma perspective, aller sur des choses plus sérieuses.
On voit dans ce que vous dites, Fabrice Flipeau, que la résolution des problèmes posés par l'évolution du climat et par le réchauffement climatique se fait à plusieurs niveaux. Il y a celui des entreprises, vous y êtes revenu à plusieurs reprises, il y a aussi celui des États, et c'est peut-être là aussi que se trouve la clé principale, Lucille Schmid. Le discours écologiste dont on parle depuis le début de cette émission, en le qualifiant parfois de dominant, il est à la fois donc d'un côté scientifique, où il va vers la raison, de l'autre vers l'émotion, tout ça semble, à vous entendre, insuffisant, encore une fois, on y revient, hein. Qu'est-ce qui manque ?
Bon, d'abord, il manque par rapport à ce que vous disiez, Marc, sur l'idée que les écologistes, c'est juste un discours gauchiste et d'alerte. Il manque la mise en valeur, au fond, de tout ce qu'ils ont pu faire dans les territoires. C'est-à-dire que il y a une réalité, en fait, de l'action écologique dans les territoires, notamment par des élus verts. Des élus écologistes au sens large, mais surtout des élus verts, qui ont fait des choses assez remarquables sur la pensée sur les transports, la question de l'aménagement du territoire, la question de l'agriculture en ville. Bon, sur l'aménagement du territoire, on peut dire qu'il y a déjà une action écologique qui a été portée, et en quelque sorte, le discours ne s'est pas fait. Et ça, c'est aussi illustratif, au fond, de ce qu'on est en France, c'est-à-dire qu'on adore avoir effectivement des discours très symboliques, des discours antagoniques, et le discours de la réalité de ce qui a déjà été fait, et de ce qui reste à faire, et le discours qui implique l'action. On parle de discours efficace ou pas depuis le début de l'émission et je me disais, qu'est-ce que c'est qu'un discours efficace en fait ? Est-ce que c'est un discours qui convainc l'auditoire là dans le court terme ou est-ce que c'est un discours qui enclenche quelque chose, une nouvelle grille pour lire l'efficacité et le réalisme, une nouvelle manière de dépenser l'argent, une nouvelle manière de faire de la hiérarchie de la recherche ? Donc on doit se poser la question du discours efficace et de qui le porte efficacement. Du coup, moi je réinsiste, on a pas mal parlé des entreprises, moi je réinsisterais volontiers sur le changement générationnel. Peut-être qu'en vieillissant, je me convainc que c'est aux autres de faire, mais c'est pas vraiment le cas. Hein. Ce qui me semble important, c'est qu'on voit bien, par exemple, qu'il y a eu ce manifeste des étudiants de grandes écoles portés, par exemple, qui disaient, moi, je veux pas aller dans une entreprise si quelque part elle ne reprend pas à son compte les questions écologiques. Donc il y a quelque chose qui bouge autour de remettre la question écologique au centre lorsqu'on est en train de faire sa vie. Qu'est-ce qu'une vie réussie, au fond ? C'est ça le discours qu'il faut faire évoluer. C'est pas avoir du pouvoir pour que la planète continue à se réchauffer. C'est avoir du pouvoir autrement.
Marc Roncave ?
Oui, bah moi je...
Rapidement,
je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai dit. Et ayons un discours un peu plus positif. Montrons ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait. Et croyons un tout petit peu en notre capacité à résoudre des problèmes. Voilà, un peu d'optimisme, quoi.
On va se quitter sur cette note optimiste après ce débat dans le grain à moudre d'été sur France Culture. Merci à tous les trois, Lucille Schmid, cofondatrice de la Fabrique écologique, Marc Roncave, professeur au Collège de France, et Fabrice Flipeau, philosophe, maître de conférence à l'Institut Mines Télécom. Merci également à l'équipe du grain à moudre d'été, Marguerite Caton, Léa Capuano, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation ce soir, Thomas Jost, mise en onde, Anthony Thomasson. Pour réécouter cette émission, deux possibilités, l'application Radio France et le site franceculture.fr. Restez avec nous dans une minute, nos programmes continuent. Matière à penser, ce sera avec Patrick Boucheron.